Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h44, merci d'être avec nous. On fait un point sur
la revue de presse ce matin avec Benjamin Glaize. Benjamin, des seringues et des chiffres à la une des journaux. Hein. Il faut accélérer, dit par exemple ce matin la Dépêche du Midi.
Oui, accélérer la vaccination contre le Covid alors que les chiffres épidémiques restent élevés. Le gouvernement affiche en tout cas sa volonté de passer la seconde. Objectif, 30 millions de vaccinés d'ici à l'été, plus proche de nous. Cette autre échéance retenue par la Marseillaise après les annonces d'hier soir, Castex promet 20 millions de vaccinés d'ici à la mi-mai. Dans la même veine, la Nouvelle République des Pyrénées titre sur le coup d'accélérateur de l'exécutif la vaccination à haute dose pour Midi Libre, alors que ce sont désormais 23 départements qui se trouvent sous surveillance renforcée. Au final, le Pas-de-Calais est le seul nouveau département reconfiné les week-ends. Marseille respire, mais les Hautes-Alpes sont dans le viseur, écrit La Provence, qui fait sa une sur cette liberté surveillée. Certes, le Premier ministre a écarté hier l'idée d'un confinement dans le Sud, mais il a invité les habitants à sortir le moins possible de leur département. L'épée de Damoclès n'a pas disparu, indique La Provence.
Oui, c'est vrai. On poursuit avec ce dramatique fait divers à la une de la République des Pyrénées. Hein. Le compagnon d'Elisa Pilarski mis en examen.
Oui, Elisa Pilarski, vous en souvenez, c'est cette jeune femme originaire des Pyrénées-Atlantiques qui avait été tuée par des chiens dans une forêt de laine alors qu'elle était enceinte. Son compagnon a donc effectivement été mis en examen, en l'occurrence pour homicide involontaire. La justice qui estime donc que c'est bien son chien Curtis qui serait en cause dans ce drame.
Oui, et puis on termine avec le journal L'Équipe. Enfin, on aura Sud-Ouest dans un instant, mais L'Équipe qui a reconstitué le film des violences commises par des supporters marseillais au centre d'entraînement fin janvier.
Oui, ça a fait beaucoup parler à l'époque, hein, l'intrusion, à titre Le Quotidien Sportif, qui a récupéré les images accablantes de la vidéosurveillance. On les découvre ce matin dans les pages de L'Équipe. Pluie de projectiles, vitres cassées, fumigènes. On a tout de suite compris qu'il n'y avait aucune place au dialogue, explique un haut responsable du club qui a préféré garder l'anonymat. Mais au-delà de l'OM, L'Équipe constate que partout en France, les ultras s'agitent. De plus en plus de rassemblements de supporters ont lieu en marge des matchs, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. La police d'ailleurs craint une contagion et la cristallisation du phénomène.
Oui. Merci à vous, Benjamin Glaize. Nous poursuivons cette revue de presse et ce tour de France de l'actualité avec Adrien Verniol, hein, chef des informations au journal Sud-Ouest. Bonjour Adrien.
Bonjour, bonjour.
En une de Sud-Ouest ce matin.
On parle des passes sanitaires demain ce matin dans le Sud-Ouest, hein, sur ce débat qui commence à faire son chemin. On a vu qu'au début, la France disait non, et puis petit à petit, le ton change. Et on voit qu'en Europe, petit à petit, le débat fait rage. Alors bon, on fait la différence entre le pass vaccinal, le pass sanitaire, on fait le point là-dessus. Et surtout les dangers, si j'ose dire, que ça pourrait engendrer.
Oui. Les dangers, en quel sens ?
Dans le sens où on est toujours sur le débat sur les données, tout ce qu'on veut montrer et donner au gouvernement. Et puis on se dit aussi, si aujourd'hui on a un pass vaccinal, on prouve qu'on est vacciné, ou en tout cas qu'on a un test négatif, demain ce sera quoi aussi ? S'il faut un pass pour aller au restaurant, prendre l'avion, vous voyez, qu'est-ce qu'il faudra montrer comme patte blanche un jour ou l'autre dans ce genre de passeport numérique, vous voyez.
Oui, il y a beaucoup de réserves, effectivement. Vous avez raison, Adrien. Et d'ailleurs, pour ajouter à ce que vous dites, et puis donc au dossier que vous pourrez lire, tous les lecteurs et auditeurs là, dans le Sud-Ouest, dans le journal Sud-Ouest ce matin, ce que nous disait Franck Riester, le ministre, qui était notre invité tout à l'heure à 7h40, il disait bien qu'on travaille sur un certificat pour un peu la sortie de crise et puis pour prévenir, pour anticipé. Il n'a pas dit que c'était fait, mais évidemment, on va vers ça, quoi, à l'avenir, parce qu'il y aura sans doute des restrictions pour pouvoir voyager et il faudra relancer aussi la machine du il n'y a pas que le voyage pour les vacances, d'ailleurs, hein. Il y a aussi beaucoup pour aller commercer, échanger à l'étranger, que nos entreprises vendent, et puis pour accueillir, et vous êtes bien placé pour ça aussi, dans le Sud-Ouest, des touristes étrangers, parce que c'est une manne quand même assez extraordinaire pour la France, Adrien.
Tout à fait, hein, ces histoires de passe sanitaire, c'est un vrai enjeu touristique, économique, et on voit bien que d'ailleurs, que ce soit dans le sud-ouest ou que ce soit d'autres pays qui dépendent du tourisme. Il y a besoin d'harmoniser quelque chose. Un pays seul ne peut pas imposer un pass, ça n'a pas de sens.
Oui.
Effectivement, oui. Et puis là, nous, on est concernés en sud-ouest, mais on est aussi frontalier de l'Espagne.
Oui.
L'Espagne a vu son tourisme s'effondrer complètement cet été. Et on voit bien qu'eux, ils sont à fond sur le pass sanitaire pour justement sauver leur prochain été.
Oui. Tiens, petite information aussi au passage, dans le sud-ouest, et on sait aussi évidemment qu'il y a énormément de viticulteurs, le vin est important pour l'économie. Ce qu'il nous disait, Franck Riester, tout à l'heure, c'est que ça négocie assez serré avec les Américains pour les surtaxes qui sont imposées. Elles ont été supprimées avec les Anglais, là, pour le whisky notamment, et il a bon espoir que ça évolue dans le bon sens avec l'administration américaine dans les semaines qui viennent. Merci Adrien Vergnol d'avoir été avec nous. C'est à lire tout cela, évidemment, dans Sud-Ouest.
Et on continue le petit déjeuner politique avec Philippe Bilger, Éric Revel, Elisabeth Lévy et vos appels au 0826 300 300.
Oui, et on va commencer par Philippe Bilger. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Bonjour Patrick, bonjour Cécile.
Bon, notre Bilger du vendredi.
Ouais.
vous êtes en forme, mon cher Philippe.
Hein. Ben, j'espère, mon cher Patrick, ne pas dire trop de sottises tout à l'heure.
Non.
Oh, ça change.
Vous en dites parfois dans les vraies voix. Hein, bon, mais ça fait du bien aussi.
Mais là,
d'avoir
c'est obligatoire, mon cher Patrick.
Un peu d'humour ne fait pas de mal.
Bon, vous vouliez nous parler du niveau d'Emmanuel Macron dans les différents sondages. Quoi. Est-ce que ça signifie quelque chose? Il est globalement, alors qu'il y a la crise, il reste à un niveau globalement assez bon, hein, si l'on compare avec les anciens présidents de la République. Quoi.
Vous avez raison, et évidemment... pour lui, c'est une bonne nouvelle qui se renouvelle depuis quelque temps assez régulièrement, mais il me semble que ils ne peuvent pas faire au niveau du pouvoir preuve d'un optimisme exagéré, parce que il me semble que quand on compare ce sondage, ces intentions de vote qui sont relativement positives, avec le sentiment profond du pays, je ressens à mon modeste niveau en permanence comme un hiatus entre cette France officielle qui valide en quelque sorte l'action du président Macron et une détestation très forte de la part du pays profond. Et deuxième élément, je me demande si dans ces intentions de vote positives,
oui,
il n'y a pas paradoxalement une sorte de confiance presque inévitable qui est donnée au président, qui est une sorte de capitaine, même discutable, mais en tout cas dans une crise qu'on affronte avec lui. Et au fond, la politique partisane, la politique qui s'invente, la politique qui projette, n'existe plus trop pour l'instant. Et donc, c'est peut-être cela aussi qui fait que des gens qui, peut-être, ne seraient pas naturellement accordés avec la pratique d'Emmanuel Macron lui apporte pour l'instant, conjoncturellement, une forme de soutien.
Oui, et puis parce qu'on dit qu'en dehors de Marine Le Pen qui pèse lourd face à Emmanuel Macron, les autres ne vont pas très très haut. Hein. Éric Revel, c'est un peu ce qui explique sans doute aussi ce niveau relatif assez important du chef de l'État, non ?
Oui, oui. Bon, alors moi, évidemment, je me méfie, lis et j'interprète les enquêtes d'opinion, mais il faut dire que à gauche, on ne sait pas trop qui va être candidat et combien le seront, et à droite, on ne sait pas qui aura l'imprimature du Parti des Républicains, voire celle de Nicolas Sarkozy, comme il l'a dit, puisqu'il veut peser sur la vie politique encore. Donc, ça veut dire que quand même, les choses sont pas du tout stabilisées. Maintenant. Est-ce que véritablement on s'achemine, comme tous les sondages le disent, vers un face-à-face au second tour,
Patrick,
Marine Le Pen, Emmanuel Macron? À mon sens, rien n'est moins sûr, parce que souvenez-vous que y a dans une précédente élection, les sondages donnaient un face-à-face François Hollande, Nicolas Sarkozy. Ni l'un ni l'autre n'ont été en mesure d'y aller. Hollande
ensuite,
a refusé l'obstacle, et Nicolas Sarkozy est sorti battu de la primaire à droite.
Oui, c'est vrai. En dehors du candidat Philippe Bilger, on n'en voit pas beaucoup d'autres aussi. Hein.
Oui, Philippe alors il y a deux choses, Patrick, qui peuvent relever d'une forme d'ironie politique. Vous aurez noté que dorénavant, Marine Le Pen ne se contente plus de dire qu'elle battra Emmanuel Macron au second tour, mais elle n'hésite pas, encore récemment, à dire qu'après tout, si elle a une certitude, elle... d'être au second tour, elle n'exclut pas que Emmanuel Macron puisse ne pas être qualifié pour le second tour, tellement il y a de candidats qui souhaitent l'affronter. Et deuxième élément, il y a quelque chose, non pas que je veuille revenir sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, mais j'avais, non Patrick, j'avais senti au sein d'une minorité des Républicains l'envie au fond de persuader l'ancien président de la République de revenir directement en politique parce que ils espéraient qu'avec sa présence, eh bien, les Républicains obtiendraient un score estimable qui les qualifierait enfin pour le second tour. Alors qu'en réalité, ils commencent à en avoir assez de voir la droite qu'ils qualifient de républicaine absente du second tour.
Oui, allez, il y a une autre question dans l'actualité ce matin que nous posons d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut rendre obligatoire la vaccination pour le personnel soignant? En ça, c'est une question un petit peu provoque parce que hier, ça a été rappelé par le gouvernement, il n'y a que 30% du personnel soignant qui est vacciné, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes. Je crois que ça réagit beaucoup du côté du Standard. Mathieu est avec nous de Levallois. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour Patrick.
Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Écoutez, très clairement, la réponse est dans votre question. Oui. Il y a un an, on applaudissait tous les soirs le personnel médical, et j'en faisais partie, à juste titre.
C'est vrai.
Mais aujourd'hui, il n'y a plus de discussion. Ils doivent tous être vaccinés sans hésitation. Je crois qu'on est en guerre, disait le président, contre le virus. Et qui aurait l'idée d'envoyer en première ligne, dont ils font partie, des troupes qu'on aurait désarmées? Si on veut se sortir de cette pandémie, c'est notre seule porte de secours. Je veux dire, qui n'a pas envie de voir les restaurants, les spectacles, les cafés, les musées rouvrir? Tout le monde en a envie. Et le seul moyen de pouvoir y accéder, c'est par la vaccination. Et c'est que eux-mêmes soient, bien sûr, d'abord vaccinés. Moi, je travaille dans le tourisme depuis 30 ans. Ça fait un an que je suis à l'arrêt total.
Ouais.
J'ai vu 30 ans de carrière professionnelle réduit à néant en un an de pandémie. J'ai qu'une envie, c'est de voir des gens revenir à Paris, de l'activité reprendre, les interactions humaines. Vous voyez, c'est pas possible. Donc, si on passe pas, quand je vois les pays qui commencent à vacciner et qui mettent en même temps des plannings de réouverture pour toute leur vie sociale, on comprend bien que le vaccin est notre seule porte de sortie.
Oui, mais alors c'est vrai, Mathieu, cela dit, sur les réseaux sociaux, hein, la question qu'on pose, il y a quasiment 80% ou environ 80% qui sont contre. Je pense qu'ils ne sont pas forcément contre le vaccin, mais ils sont contre le côté obligatoire, hein, qui pour l'instant n'existe pas. Il y a Joël qui dit, bah, tout simplement, je suis contre, parce que tout simplement, par exemple, le vaccin contre l'hépatite B est un véritable vaccin, il vous assure une immunité de plus de 6 mois, alors que là, on a des doutes, quoi.
Qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces gens-là? Ils veulent rester confinés toute leur vie en attendant que le virus parte. Le virus ne partira pas. Il va falloir qu'on vive avec. Vivre avec, ça veut dire être vacciné.
Oui, oui, oui. Philippe Bilger et Éric Revel. Mathieu, restez avec nous 2 secondes. Hein. Oui.
Je rejoins Mathieu, et même si probablement il a un savoir plus considérable que le mien là-dessus, parce que je ne suis pas un médecin.
Ah, mais il n'est pas un médecin non plus, hein, Mathieu.
Mais il est clair que Mathieu, au moins, ne se prend pas péremptoirement pour un docteur comme tous les Français.
Ouais.
Mais je le rejoins, et j'ai été frappé récemment au cours d'un autre débat par le fait que on a pu dire qu'une minorité, peut-être pas si minoritaire d'ailleurs, de soignants, était depuis toujours hostile au vaccin. On ne comprend pas pourquoi, au sein du personnel soignant, toutes compétences confondues, il y a une sorte de méfiance à l'égard du vaccin, alors qu'à l'évidence, c'est notre porte de sortie capitale aujourd'hui.
Oui, oui. Éric Revel, d'un mot.
Deux éléments. Le premier, c'est que les chiffres varient peu. On dit que dans 25-30% des cas, les contaminations à la Covid-19 se font dans les milieux hospitaliers. Mmh. Dans les milieux hospitaliers. Et puis, le deuxième élément, c'est que il me semble qu'au-delà de la protection que doivent les personnels soignants face à cette maladie, y a un problème d'exemplarité, c'est-à-dire que on a vu à un moment donné la population française qui était plutôt encline à ne pas vouloir, au début quand il n'y avait pas de vaccin, de se vacciner. Si les personnels soignants ne donnent pas l'exemple, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Donc je rejoins le point de Philippe Bidger et de Mathieu à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, près de Paris, parce qu'en réalité, on a besoin de cette exemplarité et on a besoin d'avoir un personnel soignant, mais pour eux en premier lieu, puisque 25 à 30% des contaminations se font dans les milieux hospitaliers. Ouais. On les a entendus, et ils avaient raison de nous dire au début de la première vague, on n'a pas de masque, on n'a pas de blouse, etc. Et là, aujourd'hui, on leur propose une protection et ils disent à 70%, c'est ça?
Ah oui, non, c'est parce qu'il n'y a que 30%. Non. Attendez, pour être très précis, il n'y en a que 30% environ qui sont vaccinés, mais il faut dire qu'il y a plusieurs réserves aussi à ça, c'est-à-dire que le vaccin n'est pas disponible partout. Il y a eu des problèmes en fait, d'acheminement, etc. Donc il y a cela. Il y en a d'autres qui ont quelques doutes quand même aussi sur l'AstraZeneca, en se disant lequel est le plus efficace, etc. Est-ce que je fais le Pfizer? Enfin, bon, il y a un certain nombre de choses qui sont à régler. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est-à-dire que, évidemment, ça les protège eux, mais ça ne protège pas de la transmission possible quand on est vacciné à l'égard donc, des malades. Donc, c'est pour ça qu'il pouvait y avoir... Non, mais je sais, oui, mais je mets tout sur la table.
Vous avez raison. Puis après, on discute. Franchement, on ne se ressentira jamais.
Bon,
quoi,
allez, merci Eric Revel, Philippe Bilger. Philippe, vous pouvez peut-être rester.
Oui,
Eric, lui, il est déjà avec nous depuis un petit bout de temps. On va le libérer tranquillement pour qu'il puisse reprendre un travail normal, si je puis dire. Je plaisante, mais à Azur TV tout à l'heure. Merci Mathieu, parce que dans un instant, on va parler aussi des exactions contre des policiers. Et pas seulement, mais il y a eu Beauvais, il y a eu Lyon, il y a eu Nîmes encore cette semaine. Que se passe-t-il exactement? Beaucoup d'attaques tirs de mortier. Nous serons avec un policier tout à l'heure. Et puis ensuite, à 9h15, notre rendez-vous avec notre gros sujet, l'un des gros sujets du jour.
Hein. Bah, c'est la santé, on va vous parler de la santé, l'histoire de la santé, pourquoi continuons-nous à nous soigner, et c'est pour une immortalité, Nicolas Bouzou nous en parlera dans quelques instants, et puis on sera avec un jeune garçon, un jeune chanteur, qui fait The Voice, voilà, et qui va participer à The Voice. Alexis Roussio sera avec nous, auteur, compositeur et interprète, c'est en fin d'émission.
Je vais tenter ma chance en même temps, je vais dire, on va faire un petit concours. Hein,
oh là là, mon Dieu.
Bah, allez, je me prépare.
Voilà. 0826 300 300, si vous voulez faire un concours à plusieurs, on revient dans un instant, hein, tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Merci d'être avec nous. On continue sur le petit déjeuner de l'actu. Hein. Vous l'avez entendu, 3 policiers blessés, des tirs de mortier, des mobiliers urbains dégradés, des voitures incendiées. À Beauvais et à Lyon, les violences urbaines et agressions envers les policiers se succèdent depuis dimanche. On en parle ce matin avec Christophe Crépin, qui est porte-parole du syndicat Propolis. Bonjour.
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 Merci d'être avec nous, hein, Christophe Crépin. Est-ce que il y a là comme une traînée de poudre ces attaques tirs de mortier de policiers plus que d'habitude, ou est-ce qu'on en parle un tout petit peu plus parce que le ministre aussi, Gérald Darmanin, est très actif et va toujours sur le terrain?
La réponse est dans votre question. En effet, là, actuellement, on met un effet loupe sur ce qui se passe. Malheureusement, les violences à l'égard des policiers ont toujours existé. Hein. Oui. Et aujourd'hui, les collègues que je représente, par votre voix, et d'ailleurs, je vous en remercie, sont vraiment, vraiment, vraiment... vent debout, parce que, en fait, systématiquement, dès qu'il y a un incident, c'est toujours la faute de la police. Oui. C'est dommage qu'un garçon de 13 ans qui conduisait sans casque et qui semait la terreur dans son quartier est malheureusement aujourd'hui entre la vie et la mort. Mais il faut bien voir la difficulté que nous avons à effectuer notre travail dans l'ensemble des zones qui sont difficiles.
Oui. Qu'est-ce que vous demandez alors pour pouvoir effectuer votre travail? Parce qu'on dit toujours du renfort des effectifs supplémentaires, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas une autre méthode peut-être aussi pour travailler?
Déjà, on aurait vraiment besoin d'avoir les équipements nécessaires. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec Monsieur Valls. Il nous avait promis des caméras piétons. On les a pas. Parce que systématiquement, les réseaux sociaux, ils font la guerre sur les réseaux sociaux, les jeunes. Ils se pensent impunis en mettant des bouts d'intervention de mes collègues et en les interprétant. On a vraiment besoin d'avoir la protection fonctionnelle et la protection de nos caméras. Mes collègues ont vraiment besoin aussi d'être soutenus par leur hiérarchie. Alors... L'idéologie de M. Darmanin de dire « les officiers vont venir sur le terrain », ben pourquoi pas?
Ouais. Christophe Crépin, ce qui est, auparavant, souvent, on parlait de, évidemment de violence quand il y avait des interventions. C'était les violences en intervention. Là, ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'il y a parfois aussi des commissariats qui sont attaqués par des tirs de mortier. Pourquoi, en fait, on passe à cette étape supérieure, selon vous ?
Mais parce que comme ils ont un sentiment d'impunité, ces individus vont directement au contact de mes collègues, ça n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait quelques temps que ça monte crescendo et la violence est omniprésente. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une intervention de police qui se déroule sans la violence. Les missions qui étaient les nôtres, c'est-à-dire être auprès des citoyens, maintenant on est devenu des guerriers presque.
Oui. Est-ce qu'il faut remettre des commissariats dans les quartiers ?
Cécile, merci beaucoup d'avoir posé cette question. C'est exactement la chose sur laquelle il va falloir réfléchir, c'est d'avoir une police qui soit plus près des citoyens, parce que c'est une minorité d'individus qui, dans les zones comme celle-ci, crée de la violence, en fait. Hein. Eux, ils vivent d'expédients, ils sont toujours dans les trafics, ils se pensent impunis par rapport à leur âge, par rapport à leur façon de communiquer également sur les réseaux sociaux. Oui. C'est vrai que nous, la police, on est un petit peu en retard par rapport à ça, pour voir les officiers.
Bon, mais Christophe Crépin, il faut être sérieux ensuite deux secondes. Quoi. Si on remet des commissariats en plein cœur de certains quartiers, déjà, quand ils sont à la périphérie ou un petit peu à l'extérieur, ils sont attaqués. On se souvient que dans l'est de la région parisienne, un commissariat avait été attaqué, hein, il y a comme ça quelques semaines, à plusieurs reprises, par une soixantaine d'individus, alors qu'il était justement dans le quartier. Est-ce que vraiment ce ne serait pas dangereux?
Alors, je me suis certainement mal exprimé, je vous prie de m'en excuser. Je voulais dire qu'il fallait recréer le dialogue entre la population qui habite dans ces zones. Et alors, on n'est pas obligé de mettre des commissariats, on peut mettre des patrouilles mobiles, on peut essayer de renouer un lien qui a été abandonné sous la présidence Sarkozy pour pouvoir recréer un lien entre la population et la police.
Oui, c'est ça.
Pour moi, ça me semble nécessaire.
C'est la police. C'est la fameuse police de proximité. On a quelques petits soucis avec la ligne. On a Philippe Bilger aussi qui est avec nous. Philippe, toujours, vous avez entendu Christophe Crépin parler de ce phénomène qui est assez inquiétant quand même, où il y a eu beaucoup d'exactions, là, avec des attaques de tirs de mortier. Il n'y a pas... on n'est pas deux jours dans une semaine sans avoir ça en ce moment, hein, dans les 10-15 derniers jours. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bilger ? Cette police de proximité, il faudrait essayer de retourner vers cela, mais peut-être en l'adaptant différemment.
Oui, je ne crois pas que la police de proximité serait la panacée en réalité, et je continue à penser également que le problème des moyens est important, mais qu'il n'est pas central dans cette affaire. On constate en effet que de plus en plus, non seulement les violences à l'égard de la police démarrent pour n'importe quoi, mais que même aujourd'hui, la police est prise dans des guet-apens où délibérément on cherche à la blesser, voire à la tuer. Premier point. Le deuxième point, c'est que, évidemment, il y a, je continue aussi à le regretter, chez cette multitude de jeunes gens dans lesquels il y a indiscutablement des voyous, il y a la volonté de considérer que les quartiers et les cités sont leur patrie et non pas la France et son territoire à respecter. Troisième élément, et je termine, sinon je serai trop long, Patrick.
Comme d'habitude.
L'autorité de l'État est totalement défaillante.
Ouais.
Il ne suffit pas d'envoyer un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur à chaque fois constater les dégâts. Il faudrait un jour mêler toutes ces exigences et défendre absolument la police, dont parfois j'ai l'impression que pèse sur elle une présomption de culpabilité parce qu'on n'a pas le courage de la défendre et de reconnaître qu'elle accomplit un travail de plus en plus difficile dans une république de plus en plus contestée.
Oui. L'état d'esprit de vos collègues, Christophe Crépin, porte-parole du syndicat Propolis.
Ce que vient de dire M. Bilger, c'est malheureusement l'exacte vérité. Et en effet, on se sent bien démunis en face des agressions permanentes que nous vivons.
Oui. Merci beaucoup, hein, Christophe Crépin, d'avoir été Merci. Avec nous, porte-parole du syndicat Propolis, et Philippe Bilger, d'avoir participé à ce petit déjeuner de l'actualité. Philippe, vous pouvez prendre tranquillement un café ou un thé, et on vous retrouve ce soir
dans les vraies voies,
à 17h, avec Philippe David. Hier, c'était Christine Bouillot, évidemment, l'ensemble des sujets et des chroniques.
Et vous pouvez les appeler, hein, 0826-300-300 pour y participer. En attendant, dans un instant, Homo Sanitas, histoire et avenir de la santé aux éditions XO Éditions. Et puis Nicolas Bouzou sera avec nous, hein, économiste et essayiste, pour nous en parler.
Et puis petite surprise aussi à 10h moins le quart. Oui, hein. Restez avec nous. Petite surprise,
si
parce qu'on aura quelqu'un de Voice. Ouais.
Ouais, ouais, un candidat qui devrait passer les auditions à l'aveugle ce week-end. Ouais. Donc on espère.
Patrick R, il s'appelle.
Patrick R, Patrick Roger.
Non, mais je vais me lancer.
Tiens, je vais vous faire chanter. Il va vous faire chanter.
Ah, ouais.
Mais pas avec la voix.
Je vous laisse. À bientôt.
À tout de suite.